C'est donc sur le texte biblique, colonne vertébrale de la cantate, que nous allons méditer aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir dans la feuille de cantate qui a été distribuée. Il s'agit d'un extrait du 14e chapitre de l'évangile de Jean. J'ai un tout petit peu modifié le découpage du texte et nous lirons du verset 15 au verset 29. Vous avez le texte sur les feuilles bleues. C'est donc Jésus qui parle à ses disciples. C'est un passage du grand discours, dit discours d'adieu, que Jésus adresse à ses disciples avant d'être arrêté. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyée. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Il y aurait bien des raisons de tout laisser tomber et des prétextes pour se laisser aller. Qu'est-ce que c'est que cet humain ? Que cette humanité dérivant de profit en violence et d'égoïsme en haine. Il suffit d'entendre, de l'Ukraine à la Palestine, du Congo à la Russie, à la forêt amazonienne, n'entendre que mort, destruction, famine, répression, oppression. Il suffit de constater ces crises accumulées, climat, justice sociale, droits de l'humain, et de regarder dans nos villes celles et ceux qui errent, qui crient, qui tombent, qui sont défaits, petit à petit, d'un coup. Et cette solitude, cet isolement qui enferme et sépare, qui fragmente et diminue. Qu'est-ce que cet humain perdu, perdant, déchiré, pécheur, pour le dire en termes théologiques ? Il y aurait de quoi se laisser aller à la fatalité, spirale descendant de l'obscurité du désespoir. Lorsque Jésus parle à ses disciples, c'est pour les préparer à son absence, car il va mourir. Et ils auraient de quoi laisser tomber, se laisser aller. Celui en qui ils reconnaissent le Christ, celui en qui ils ont placé leur raison de vivre, va mourir. Lorsque l'évangéliste Jean écrit, c'est pour des croyants vivant dans un monde très agité et hostile à leur égard, et même des divisions s'installent parmi eux. Ils ont de quoi être troublés, bouleversés, déçus. Et les lecteurs du XXIe siècle se trouvent eux-mêmes ni préservés, ni privilégiés, mais plongés dans ces temps incertains et des situations précaires ou carrément insupportables. Pourtant, à lire le discours d'adieu de Jésus à ses disciples, ou seulement l'extrait qui nous occupe ce matin, nous ne lisons aucune réserve de la part de Jésus, aucun jugement, aucune condamnation, aucune menace, aucun chantage. Seulement une promesse qui porte en elle et dans son accomplissement le relèvement, le soulèvement de ses disciples, de ces humains qui pourraient se laisser aller et tout laisser tomber. Ce que Jésus promet à ses disciples, c'est que malgré ce qui va lui arriver, malgré ce qui va leur arriver, finalement, quoi qu'il arrive, à nous, à d'autres, leur destinée, notre destinée, qui commence déjà, est de vivre de cette qualité de vie qui est d'amour, c'est-à-dire d'une proximité, d'une coexistence, d'une intimité avec lui et avec le Père. Alors que ce qui va arriver pourrait concourir à la dérive de l'humain ou à son écrasement, Jésus promet une qualité de présence divine au plus près de l'humain, en l'humain lui-même, dans le même temps où le divin fait de l'humain sa demeure. Et c'est alors comme une élévation de l'être humain. Ce dont parle Jésus, c'est de Pâques. Non pas la date ou la fête que nous célébrons une fois par an, à la fin de ce mois, cette année. Mais Pâques comme cet événement existentiel d'une nouvelle relation au Christ qui vient, au Christ vivant, une relation porteuse de vie pour les disciples, pour celles et ceux qui croient, parce que oui, Pâques ne relève pas d'une manifestation visible et incontestable ou qui se prouve, mais de la confiance, de la foi. Et cela a quand même un véritable effet sur la personne et sur son existence. Et Jésus ouvre la possibilité de cette expérience pascale à tous les temps, toutes les générations, chaque personne, si quelqu'un m'aime, quelqu'un, qui que ce soit, n'importe quand. Ce que Jésus promet est à croire. Ce que Jésus promet, c'est à travers sa venue la manifestation du Dieu d'amour au cœur même de la vie de l'être humain, une manifestation dont le signe est cette vie nouvelle qui anime le disciple, une vie qui n'est plus gouvernée ni écrasée par le destin mais soulevé dans l'éternité. Et ce regard positif, ce regard d'espérance et de confiance porté sur chacun, chacune de nous, c'est une manière de dire l'Évangile, une manière de dire la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'être compétent ou méritant, mais de croire et de recevoir. La bonne nouvelle, c'est cette circulation de vie et d'amour, cette dynamique de vie et d'amour qui relie Dieu et l'humain, le Christ et l'Esprit, la transcendance et celui ou celle qui croit. Une dynamique dont le texte rend compte sans définition, sans dogme, mais avec des mots qui tourbillonnent, qui glissent, qui sont repris d'un paragraphe à l'autre, d'un lieu à l'autre, de Dieu à l'humain, du Christ à l'Esprit, du disciple au Père, du texte au lecteur. La vie libérée, la vie soulevée, est le signe qu'il y a eu amour, qu'il y a eu Dieu. Car pour l'évangile de Jean, aimer, c'est communiquer la vie. La vie de la vie, ce qui rend la vie vivante, ce qui fait vivre véritablement. Lorsque Jésus dit à ses disciples que l'aimer, c'est garder ses commandements, c'est de cela dont il s'agit. En effet, garder, ce n'est pas obéir, en dépit de ce que donne à lire quelques traductions. Garder, c'est autre chose. Garder, c'est constitué de deux mouvements. Le premier, c'est se souvenir. Cette manière de se souvenir qui rend actuel ce dont on se souvient, qui ne laisse pas le souvenir dans les strates du passé, mais qui le garde et le remonte, si besoin, dans le présent. Et le deuxième mouvement de la garde, c'est l'interprétation. Quel sens pour le présent ? Que de quoi rend compte ce commandement aujourd'hui ? Comment le mettre en œuvre parmi nos contemporains ? Et pour ces deux mouvements, pour nous aider dans ces deux mouvements, dans cette garde, Jésus annonce le don du défenseur. On pourrait dire aussi consolateur, c'est le même mot, l'Esprit Saint. Le défenseur, le consolateur, c'est celui qui procure du souffle, de quoi respirer à celui ou celle qui est menacé ou affligé et qui manque de souffle parce que ça fait cela, une menace ou une peine, ça comprime le souffle. Ça le restreint. L'Esprit Saint, c'est ce souffle d'inspiration pour penser, pour créer, pour vivre dans la dynamique d'amour qui est communication de vie. Cette inspiration qui saisit, qui soulève des hommes et des femmes, qui rendent présents, qui incarnent, qui mettent en œuvre dans leur existence les deux commandements que Jésus a donnés à ses disciples. Parce que dans l'évangile de Jean, il n'y a que deux commandements énoncés au chapitre 13. Le premier, lorsque Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » Et le second, c'est celui que Jésus donne un peu plus loin. « Je vous donne un commandement nouveau, dit-il, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. » Et vous aurez remarqué que ce que Jésus ordonne à ses disciples, c'est ce qu'il vient de leur donner. Il le leur ordonne parce qu'il vient de leur donner une extrême dignité en leur lavant les pieds et l'amour dont il les a aimés et qui est de les faire entrer dans la vie en abondance, la vie vivante, la vie éternelle, selon l'expression de l'évangile de Jean. Garder ses commandements, c'est faire comme il l'a fait parce qu'on en a bénéficié et dans les circonstances et les situations qui sont les nôtres. Reconnaissance de la dignité d'autrui et amour qui est vie pour autrui. Et de cela, eh bien, nous en sommes capables. Lorsque nous avons reçu ce que le Christ vient donner, et parce que le défenseur, le consolateur, l'Esprit Saint qui enseigne et rappelle, qui rend actuel et ouvre le sens, cet Esprit Saint nous soulève et nous entraîne. C'est maintenant. Nous en sommes capables. Hommes et femmes vivant en ce monde d'un autre souffle, d'une autre source, d'un autre pain que ceux du monde qui croient qu'il se suffit à lui-même. Le monde dans l'évangile de Jean est caractérisé par cet état d'esprit qui incite l'humain à constituer son identité sur son passé, à fonder son existence sur ses compétences et à envisager le futur seulement dans la contrainte terriblement réductrice et mortifère des préjugés et des assignations. Et cette logique est terriblement cruelle parce qu'elle fait croire qu'il y a des gagnants et des perdants. Elle fait croire qu'il est admissible, normal, qu'il y ait des perdants. Elle fait croire qu'il n'y a rien à perdre à être un gagnant, mais ceci est un mensonge. Ce que Jésus annonce dans ce passage et dans bien d'autres, c'est qu'il est une autre manière de penser et de vivre. C'est qu'il y a une foi dans laquelle l'intériorité de l'être n'est pas seulement comprise comme un refuge devant une menace ou un chagrin, mais comme le lieu d'une ouverture et d'un élan vers autrui, parce qu'elle est, cette intériorité, le lieu où le divin se rend présent à l'humain. Nous sommes ces humains destinés à la vie éternelle dès aujourd'hui. Et lorsque nous le croyons, notre existence en est renouvelée, relevée dans cette plénitude dont le nom et paix. Cette méditation va se prolonger avec l'interprétation que Jean-Sébastien Bach donne à ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Une interprétation musicale inspirée à celui qui est parfois désigné comme le cinquième évangéliste. Une cantate, c'est une mise en mouvement, offerte, où la musique provoque un déploiement de l'âme et l'élève à sa manière propre, qui n'est pas celle des mots, mais qui n'en permet pas moins une véritable expérience spirituelle d'ouverture, de contact intérieur avec ce qui est plus grand que soi, plus que soi, et qui nous élargit dans les deux sens du terme. Alors nous garderons l'amen final pour après la cantate.